Les éclectiques
consentantes,
l'émission la plus perchée
de la radio.
Et oui, c'est l'immersion ou l'émission plus exactement la plus perchée de la radio que nous entamons maintenant, désolé, avec toujours Igor Selector. Bonjour Igor.
Bonjour à tous.
Bonjour Ingrid, avec Ingrid. Bonjour Ingrid.
Bonjour Gilles, bonjour Igor. Et bonjour.
Et bonjour Doc aussi.
Et puis avec Doc, merci de m'avoir invité. Ensoleillé. Et puis comme c'est pas moi qui la présente, je vous laisse refaire les présentations. Je me couperai après d'ailleurs.
Bonjour à tous. Donc nous accueillons aujourd'hui le Doc Raymond, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'addiction avec Igor.
Exactement.
Doc Raymond et Gilles à la technique qui est toujours le bienvenu pour intervenir.
Voilà.
Merci.
Nous allons discuter de nos addictifs comportements.
Nous allons peut-être commencer par demander à Doc Raymond, qu'est-ce que c'est l'addiction ?
Waouh ! tout presque pourrait être addiction. Non, certainement. Voilà. Médicalement, l'addiction, c'est une maladie cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogues malgré la connaissance de leurs conséquences négatives. Voilà une définition très, très, très clinique. Je crois qu'on ne peut pas ne pas passer à côté de l'étymologie, du mot addiction, du latin donc addictere, qui correspond au fait de donner littéralement son corps en esclavage pour payer une dette. Je pense que ceci devrait vous inspirer.
Exactement. Oui. La question est de savoir à qui nous payons la dette.
Moi, je vous propose d'enchaîner sur une première lecture de texte qui va bien avec l'introduction de Doc Raymond. Je ne sais pas si tu es d'accord, Igor.
Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison.
Ce sont deux petits extraits que je vais dire à la suite, qui est tiré d'un ouvrage de Leila Slimani, « Dans le jardin de l'ogre ». À qui donne-t-on son corps lorsque nous sommes addicts ? Une semaine qu'elle tient, une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En 4 jours, elle a couru 32 kilomètres. Elle est allée de Pigalle aux Champs-Élysées, du musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit, sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy, elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout dans la cuisine, elle se balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette, sous la douche. Elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu'on la saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui allaite, une femme qui jouit. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre, elle veut être une poupée dans le jardin de l'ogre. Adèle ne tire ni gloire ni honte de ses conquêtes. Elle ne tient pas de livre de compte, ne retient pas les noms et encore moins les situations. Elle oublie très vite et c'est tant mieux. Comment pourrait-elle se souvenir d'autant de peau, d'autant d'odeurs ? Comment pourrait-elle garder en mémoire le poids de chaque corps sur elle, la largeur des hanches, la taille du sexe ? Elle ne se souvient de rien de précis, mais les hommes sont les uniques repères de son existence. À chaque saison, à chaque anniversaire, à chaque événement de sa vie, correspond un amant au visage flou. Dans son amnésie flotte la rassurante sensation d'avoir existé 1000 fois à travers le désir des autres. Et quand, des années plus tard, il lui arrive de recroiser un homme qui, un peu ému, avoue d'une voix grave « J'ai mis du temps à t'oublier », elle en retire une satisfaction immense. Comme si tout cela n'était pas vain, comme si du sens s'était, bien malgré elle, immiscé dans cette éternelle répétition. Bon, je pense qu'il est inutile de dire à quoi Adèle est addicte.
Effectivement.
Et vous souhaitez intervenir suite à cette lecture ou...
Ah oui, oui, bien sûr. Alors, bien sûr qu'il y a les addictions donc, aux drogues, aux psychotropes, aux substances psychoactives, et il y a effectivement les addictions comportementales. Donc, les trois principales actuellement sont celles du jeu pathologique, les addictions sexuelles, et puis une que je rajouterais parce qu'elle m'intéresse beaucoup en ce moment, après cette période de confinement et encore maintenant, qui est l'addiction à Internet. En ce qui concerne les addictions, par exemple, alors qu'elles soient comportementales ou autres, on retrouve à chaque fois des éléments essentiels, c'est-à-dire que la personne y consacre une substantielle partie de son temps, qu'il existe des phénomènes ce qu'on appelle de craving, c'est-à-dire du besoin impérieux ou irrésistible de consommer, que les activités sociales, professionnelles sont abandonnées ou réduites pour se soumettre en quelque sorte à cette emprise. Et le terme emprise me paraît très très important parce qu'emprise, elle peut être effectivement psychoactive dans le cas de substances. Je vous rappelle que, par exemple, plus de 70 000 Américains, c'est-à-dire environ un stade de France, disparaît par an de consommation excessive d'opioïdes, qui sont largement prescrits là-bas, beaucoup plus largement qu'ici. Il y a aussi les éléments dans l'addiction sexuelle ou aussi l'Internet de perte de contrôle sur la quantité de temps qui va être dédié à l'activité, avec effectivement le binge, c'est le fait de devoir consommer absolument, tout de suite. Voilà, quelque chose de cet ordre-là qui est très bien dans ce texte, effectivement, de Léa Slimani. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Le désir persistant et les efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'usage du comportement ou de la substance. Et puis bon, je resterai là pour l'instant parce que sinon je vais être un petit peu long, mais voilà quelques thèmes qui tout de suite sur les addictions comportementales me paraissent excellentes de mettre en avant pour nous aujourd'hui, au point que pour Internet j'en évoquais un livre d'un de nos amis là, qui vient d'être publié, qui s'appelle Le vampirisme au quotidien, et où effectivement on retrouve le système de domination par Internet. Mais nous ne faisons pas de politique ici.
Il y a aussi l'addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Mais je ne veux pas détourner, enfin je ne sais pas, le terme addiction étant très vaste, ce que vous avez choisi en particulier.
En fait, moi, ce qui m'intéresse, je pense que déjà, on peut d'ores et déjà, et c'est pour ça que le texte d'Ingrid est d'autant plus pertinent, parce qu'on raccroche effectivement toujours la notion, enfin très souvent, on va dire, la notion d'addiction, soit à la prise de telle ou telle substance, très souvent liée d'ailleurs à des douleurs, des douleurs physiques, quelle soit l'origine. Et où effectivement à des comportements qui vont générer des addictions comme le jeu. Alors, est-ce qu'on est addict au jeu ou est-ce qu'on est addict à l'espèce de vibration qu'il y a derrière? Ça,
à l'adrénaline peut-être aussi.
C'est très possible. Mais moi ce que je retiens, c'est qu'on disparaît derrière l'addiction. En fait, elle devient totalement structurante. Je pense que c'est un petit peu au cœur du texte. C'est qu'en fait tout au long de sa vie. Ce qui la structure, qu'est-ce que c'est? C'est la consommation de ce à quoi elle est addicte, et c'est la recherche de ça. Parce qu'en fait, quand on est addict à un produit ou à tel ou tel comportement, en fait, ça prend le pas sur tout, ça prend absolument pas sur tout le reste. Ça vient structurer l'identité, ça structure le temps. Parce qu'en fait, la recherche de ce nouveau shoot est absolument chronophage. En fait, ça organise absolument tout. Et je pense que ce soit le sexe ou telle ou telle substance médicamenteuse ou des formes de drogue, parce qu'après tout, les addictions sont également légales. Voilà, je pense que c'est là on touche à quelque chose qui va au-delà, si vous voulez, des effets même des différentes substances. Et par ailleurs, je pense que ça vient structurer de manière très forte la personne qui est addict. Ce qui, pour moi, ouvre des portes sur d'autres choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des addictions qu'on ne nomme pas comme telles, mais qui viennent, qui sont en fait des éléments voilà, qui viennent structurer l'identité, alors qu'en fait elles sont le fruit de différentes, je vais appeler ça des névroses, mais c'est pas exactement ça, mais de souffrances non soignées. Il y a, voilà, quand des gens se caractérisent par leur manie, par leur manière d'être, enfin ceci et cela, je pense qu'en fait ils sont addicts, ils viennent occuper un espace qui n'est pas forcément celui de l'identité, mais qui projette leur souffrance. Et je pense que l'addiction, c'est ça en fait. On projette sa propre souffrance à la fois sur soi, mais également sur les autres. Voilà. J'ai vu la question. Et
il y a une question de Gilles à la technique. Question auditeur. Tu peux nous la poser, ta question, Gilles.
Ben, écoute, puisque tu me le proposes si gentiment, la question auditeur de Gilles à la technique est la suivante. Peut-on être addict à la franc-maçonnerie dans la mesure où la franc-maçonnerie devrait prémunir le franc-maçon de toute addiction?
Alors, Doc, Raymond.
Oh là, eh bien, je répondrai qu'il y a 50 nuances d'addiction. Bon, non, une autre manière de le dire et de répondre ici, tout en restant bien sûr dans le sujet devant cette question fort déstabilisante, je dirais que c'est exactement ce qu'évoquait Igor. En fait, il n'y a pas de distinction entre drogue dure et drogue douce. Médicalement, c'est l'usage qui est fait qui en définit la gravité. Alors, ma foi, je renvoie à la question de notre auditeur, la franc-maçonnerie, est-ce grave?
Oui, j'entendais lorsqu'on dépasse le stade, c'est-à-dire lorsque ça devient une drogue dure. Eh ben, j'en connais qu'on voit constamment sur place.
Mais justement, je vais tenter une réponse qui est dans la ligne, qui n'est pas un oui ou un non par ailleurs. J'ai tendance à considérer comme addiction les comportements les espèces de petits détails de la vie qui en fait n'ont pas de valeur. Fondamentalement insignifiant, mais c'est clair et net que si le maçon considère prend la franc-maçonnerie à la fois comme le fondement, la base de son identité, et quand cette activité devient en fait l'ensemble de sa sphère sociale et qu'il n'existe que par ça, oui, je pense qu'il y a une forme d'addiction, parce qu'en fait, nous ne sommes pas et la franc-maçonnerie n'est pas nous. C'est absolument impossible en fait.
L'addiction, c'est
par nous définir. À un moment donné, il y a une dépendance totale par rapport à l'activité ou à la substance. Voilà.
Je te rejoins complètement, Igor. Je pense que l'addiction est addiction au moment où elle te déconnecte de la réalité, c'est où ça. Tu ne vis plus qu'à travers la chose à laquelle tu es accro.
Exactement. Et je pense même qu'on peut être addict au pouvoir, on peut être addict à l'emprise sur les autres, à l'emprise qu'ont les autres sur nous. Je pense que ça fait clairement partie de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose d'exogène vient structurer notre identité profonde, ce de quoi la franc-maçonnerie pourrait tendre à nous protéger, sauf que c'est extrêmement complexe puisqu'elle a un effet structurant et organisationnel aussi. C'est-à-dire que le problème de la franc-maçonnerie, c'est que tout ne se passe pas obligatoirement en tenue, si tu veux. Or, je pense que ce qui se passe en dehors des tenues peut être particulièrement addictif. Mais bon, c'est...
on parle des afters au whisky ou...
Plus que l'initiation elle-même. Mais justement, je vais permettre une lecture de texte alors qui nous déconnecte de la franc-maçonnerie, accessoirement, mais qui va dans ce sens-là. Peut-être. On manque d'un dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'homme qui boit est un homme interplanétaire. C'est dans un espace interplanétaire qu'il se meut, c'est là qu'il guette. L'alcool ne console rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme, c'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme, l'illusion de la création capitale.
Mmh. Ah, intéressant.
Marguerite Duras.
Pourtant, ce n'est pas l'une de mes auteurs préférées.
Margarita Duras.
Des choses à dire, Doc?
Oui, et puis en lien peut-être avec le sujet précédent, parce que je pouvais pas effectivement ne pas réfléchir aussi à cette question de la franc-maçonnerie en miroir de ce que vient de nous lire Igor. Je crois que l'essentiel, c'est bien comprendre que la consommation est responsable de l'incapacité pour l'usager de remplir en fait ses obligations importantes majeures du travail, de l'école, de la maison, de que sais-je, etc., etc. Et c'est cette emprise, cette exclusivité qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec des personnes très, j'allais dire, quasiment monomaniaques, un peu comme vous avez tous lu Virginie Despentes et le subutexte de ce fameux Vernon. C'est exactement le même principe. On va essayer, notamment en addictologie, de remplacer au fur et à mesure par des substances moins nocives, moins, etc. Mais on reste dans quelque chose qui serait effectivement en général compris comme une maladie chronique à rechute en permanence. Et c'est bien ce qu'illustre effectivement ce texte avec le phénomène de tolérance effectivement dont parfois la traduction populaire est justement malheureusement le fait de par exemple tenir l'alcool. Tenir l'alcool, c'est déjà un terme addictologique, c'est pas du tout un renforcement, c'est au contraire effectivement le signe d'un danger important. Qu'évoquer d'autre à ce il y a je crois aussi un élément tout à fait essentiel qui mériterait là aussi moult discussions, qui est le trouble psychique associé à l'addiction. Il est fort rare de trouver sans aucun préalable une addiction qui soit installée toute seule de novo. Exactement comme tout à l'heure, que ce soit effectivement par rapport à l'ordre du monde ou un certain ordre du monde, on trouve souvent un trouble psychique, c'est-à-dire que souvent l'addiction, qu'elle soit comportementale, révèle en fait c'est un piège, une manière d'essayer de se soigner avec ce qui n'est pas effectivement, ce qui ne peut pas soigner. On va combler un vide, on va combler l'anxiété, un manque de sens, on va combler quelque chose, et l'addiction vient effectivement comprendre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une maladie chronique du cerveau, parce qu'il y a derrière effectivement toute une biologie qui est tout à fait le même style à décrire ici, que les addictions soient comportementales, qu'elles soient médicamenteuses, qu'elles soient d'autres substances. C'est tout ce qu'on retrouve effectivement à chaque fois. D'ailleurs, j'aime bien à ce qu'on fasse la différence entre le terme de drogue et puis les stupéfiants. Les drogues, effectivement, qui seraient dans une... Je vous rappelle que dans une traduction lapidaire, drug en anglais, en fait, c'est médicament, hein, tout simplement.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Voilà. Et qu'effectivement, les stupéfiants, ce sont les substances psychoactives illicites. Alors, c'est toute l'ambiguïté des deux termes. La France a par exemple la législation la plus dure concernant le cannabis et c'est néanmoins le pays d'Europe le plus consommateur. Je laisse ça à votre réflexion.
Oui. Mais je pense que la notion... Excuse-moi Ingrid, vas-y.
Non, moi je proposais de retrouver un petit peu de légèreté à travers un interlude musical. Mais si tu voulais... intervenir, Igor.
Lequel?
Non, je me disais qu'avant, avant la musique, parce que je vais me permettre, je pense que la notion de vide est excessivement importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le vide, alors qui peut se traduire par des douleurs physiques extrêmes, mais en fait, c'est ça qu'on vient combler.
Alors, moi je proposais, puisqu'on était dans les psychotropes et et les substances Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, pour rester dans le thème.
En avant.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Petit morceau qui aurait fait plaisir à notre ami Jean-Laurent.
Exactement.
Alors, est-ce que vous me permettez de reprendre par une nouvelle lecture?
Ah oui, c'est le... Alors, en avant.
Je vous propose à...
C'est nous voyager.
Puisque nous, puisque nous avions dérapé sur le thème des addictions aux produits plus ou moins licite, un extrait de l'écriture, sur l'écriture de Charles Bukowski, qui a écrit ces pages dans un état, les deux pages que je vais vous lire, je pense qu'il n'était pas totalement dans un état normal.
Et
bourré, un peu, comme d'habitude, oui, Chopin revit sous les doigts de qui ? Scénario Rubinstein, pas l'oreille assez bonne. Chopin repose 6 pieds sous terre et il tire des coups de feu depuis les toits et je suis assis en enfer dans une cuisine sale et bruyante, écrivant à Henry Miller. Une autre bière, une autre bière. Je poursuis ma théorie sur le non-renoncement. Je n'arrêterai pas d'écrire si tout revient à la normale. Je n'arrêterai pas même s'il m'envoie une chorale de putains pour distribuer des coups de pied dans mes globes oculaires pendant qu'un sextuor de batteur efféminé tambourine un air de la Havane à faire se tortiller mon Dieu sur des bongos. J'ai commencé à écrire, j'avais déjà 35 ans, et si j'attends 35 ans de plus, il ne restera plus grand-chose. Alors ce soir, j'ai 45 ans et j'écris à Henry Miller. Ça va. Je crois que Doc Fink m'a pris pour un snob. C'est juste que j'aime pas qu'on frappe à ma porte. J'ai toujours été un solitaire. Je vais être franc, j'aime pas la plupart des gens. Ils me fatiguent, me pompent l'air, me sortent par les yeux, me détroussent, me mentent, me baissent, me trompent, me donnent des leçons, m'insultent, m'adorent. Mais surtout, Il parle, 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 jusqu'à ce que je me sente comme un chat fourré par un éléphant. Disons juste que j'en retire aucun plaisir. À la longue, ces choses-là me font du mal. Dans les usines et les abattoirs, les gens n'ont pas le temps de parler. Et rien que pour ça, je leur souhaiterais de remercier la bonté de mes patrons pleins aux as. J'entends jamais leur voix, même quand ils me foutent à la porte. Et tous les fils de pute que vous avez rencontrés, je suis sans doute celui qui démissionne et qu'on débarque le plus. Mais j'entends jamais leur voix, c'est noble, c'est délicat, c'est courtois. Je mets juste des voiles et je ne pense même pas à tirer sur quelqu'un depuis un toit. Je me dis, bon, je vais pioncer une semaine et je chercherai ailleurs. Ou alors je rentre chez moi, je m'envoie un cul et bois toute la nuit. Ce genre de choses. Je m'adapte parfaitement à ce programme. Je suis une merde, mais un solitaire avant tout. Et maintenant, j'ai quelques poèmes publiés, alors ils viennent frapper à ma porte et j'ai toujours aucune envie de les voir. La différence étant que si vous êtes un solitaire et personne, vous êtes un cinglé. Si vous êtes un solitaire et un peu connu, alors vous êtes un snob. Ils trouveront toujours le moyen de vous atteindre, peu importe la façon dont vous les esquivez. Même la femme qui est là, elle ne peut pas s'empêcher de me corriger. Quoi que je dise, bordel, je peux me réveiller le matin et dire « Bon Dieu, il fait chaud !» Et elle dira « Tu crois seulement qu'il fait chaud, il fait moins chaud qu'hier, imagine si tu étais en Afrique, ce genre de choses. » Voilà. Charles Bukowski et son alcoolisme, même quand il écrit. Et je vois que Doc... Un petit mot, Doc ?
Oui, ça me rappelle une vieille phrase qui disait que l'addiction est un mensonge confortable.
Mais je vais renverser la proposition. Je crois que Bukowski a le mérite d'admettre qu'il est addict à quelque chose. Ou plus ou moins, il l'écrit. Ma grande hypothèse, c'est que la plupart des gens sont addicts à des choses sans s'en rendre compte et qu'ils ne l'admettent pas. Et qu'en réalité, c'est extrêmement difficile de le savoir, notamment à des dépendances émotionnelles ou à des formes de névrose qu'on n'aurait pas forcément soignées, en dehors de toute prise de médicamenteuse. C'est encore autre chose. Parce que là, effectivement, bon, mais c'est là au moins, il admet ou il tente de poser sur le papier ce qu'il est en train de ressentir.
Donc voilà. Le fait de reconnaître qu'on est addict et presque même de le revendiquer là dans le cas de Bukowski, c'est pas une, ça ne peut pas aider à sortir de ses addictions.
Oh que non.
ce serait trop facile.
J'apprécie la question.
Non.
Là, on est dans une forme, j'allais dire, hélas, d'esthétisme, mais du point de vue médical, non. La plus grande difficulté sur les questions d'addiction aux substances, c'est qu'effectivement, on a toujours besoin médicalement de proposer à un moment un cadre qui va être une hospitalisation pour un sevrage. C'est fondamental qu'une personne puisse à un moment accepter l'idée d'être sevrée pour reprendre sa vie et éventuellement être confronté d'ailleurs à la tentation de reconsommation. La majeure partie, c'est comme Amy Winehouse dans Rehab, de refuser complètement ce moment-là, c'est-à-dire que le flottement en permanence va définir tout ce qui va effectivement considérer la... On pratique un peu moins en France les formes des A, des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes comme aux États-Unis, mais ça fait partie de ces groupes effectivement qui peuvent partager et qui deviennent effectivement en eux-mêmes institutionnels en quelque sorte dans la manière de consommer, de développer. L'autre partie de ce qui était évoqué là m'évoque vraiment, mais là c'est peut-être tiré un peu loin le sujet par rapport à Bukowski, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, de la question d'Internet, ou en tout cas des réseaux sociaux et tout cet aspect des choses, puisqu'effectivement, à mon sens, on est vraiment face à un système de domination là qui est maintenant extrêmement répandu et qui est une sorte de vampirisme en quelque sorte, parce que Internet, excusez-moi l'image, elle est facile, mais dès qu'on est mordu, c'est foutu.
Oui. Mais justement, je pense que ça rentre dans le cadre, pour moi, de ce qui peut être addictif, au-delà du système de domination. Je pense que c'est la projection d'une identité, comment dire, pas falsifiée, mais qui tu as une part en fait de cette identité qui prend le pas sur tout le reste. Et finalement, c'est ça. Et je pense qu'on est, on peut être totalement addict aussi à ça. C'est-à-dire que pour moi, dans le facteur de l'addiction, il y a une jouissance de l'addiction elle-même.
Oui.
C'est-à-dire que c'est extrêmement catastrophique. C'est-à-dire qu'on finit par se définir comme tel, et ça prend absolument tout, qu'on l'admette ou qu'on l'admette pas. Et là, je pense que ça finit par tout bouffer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement difficile d'en sortir, parce qu'on a l'impression que ça nous structure, alors qu'en réalité, ça flingue la plupart des relations sociales normales qu'on devrait l'on devrait avoir, parce qu'on finit par enfermer tous les autres dans sa propre addiction. Quand on est en recherche permanente de la nouvelle, de cette forme d'étincelle, parce qu'en plus il y a des effets sur les substances, il y a des effets de dépendance qui sont absolument dramatiques, donc en fait on va surconsommer pour tenter de retrouver le premier la première émotion, ce qui est globalement totalement impossible d'ailleurs.
Qu'est-ce qui est le plus grave, Doc Raymond ? Une addiction à une substance, à l'alcool, à la cigarette, ou une addiction au jeu ou au sexe ou à d'autres
J'allais dire chacun son choix. Quelque part, est-ce qu'on choisit son addiction ou est-ce que c'est l'addiction qui nous choisit ? Bon, je sais qu'elle est relativement facile en présentant ainsi. Je crois que ce qui compte, c'est exactement ce que disait Igor là, c'est-à-dire que je vais amener là à Dracula Stoker, celui-là, la réédition donc de mon ami Gérard Lopez. Dans le château de Dracula, on entre de son plein gré, c'est-à-dire que on est véritablement face à une fascination, une séduction, alors que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, que ce soit peu importe le comportement, les jeux, etc. Il y a à la fois dans cette fascination et cette séduction du désir, mais en même temps de l'épouvante qui nous attire. Parce qu'on sait très bien qu'il ne faudrait pas, mais c'est justement ce début d'interdiction qui permet effectivement d'être dans les confins, j'allais dire les confins du confinement. Elle est facile, mais enfin je pense qu'on peut aussi l'amener de ce côté-là. Donc il y a un accueil formidable au château de Dracula, même si c'est une secte, même si c'est une relation amoureuse, même si on est dans la dépendance d'un escroc, la stratégie d'Internet, enfin, je ne voudrais pas tout mettre à la poubelle parce qu'il y a des choses formidables aussi, mais c'est souvent un langage du double lien, c'est-à-dire des attitudes qui nous mettent dans l'impossibilité de décider par notre isolement. Et effectivement, les manipulations à partir de là sont tout à fait possibles avec les mensonges, les accusations sans preuve, les amalgames, la rhétorique perverse, la fuite en avant pour interdire toute réflexion. Je pense que cela doit effectivement inspirer et cette vitesse qui fait que, comme je disais tout à l'heure, quand on est mordu, on est foutu. Quand on est accro à Internet, à son smartphone, on ne le lâche plus. Et c'est vraiment là le commencement des ennuis et où effectivement peuvent venir, en tout cas, mais je parle bien sûr avec le recul de mon métier, hein, donc je n'ai qu'un regard, une facette de tout cela, des questions qui peuvent être après d'humiliation, de désamour, j'allais presque dire de totalitarisme, ou en tout cas sur cette piste-là, le vampirisme, peut-on résister à une vamp ? Peut-on résister, nous, dans notre génération, à Brigitte Bardot ? Une vamp, c'est une vamp. Est-ce qu'on peut résister à Facebook ? Est-ce qu'on peut résister à son nouveau smartphone, avec la nouvelle technologie, avec cette course en avant? Et on est à ce moment-là dans une inversion des rôles, avec des victimes qui deviennent bourreaux et des bourreaux qui peuvent devenir victimes. Mais Dracula était très sincère.
Comment s'en prémunir?
Là, c'est toute la question du déni. Je ne vois pas que ça nous emmène trop loin par rapport au sujet que vous m'avez évoqué de l'addiction. Je dirais que qui sont les. Une autre manière de formuler, c'est qui sont les victimes des GAFA. Je crois que ce sont ces fonctions surtout du profil logique. D'abord, ce sont des profils très, très suggestibles, qui tombent en direct dans les pièges, les fake news, je crois, comme on dit maintenant, les pièges de la réalité, ou en tout cas d'une fausse réalité, avec des problèmes d'incompréhension renforcés par la culpabilisation, ça va vous amuser, le terme des hémorragies narcissiques, ça va vous plaire.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
Voilà. Du coup, en rapport de ces hémorragies narcissiques, bien sûr que les théories du complot deviennent la marque indélébile du vampire. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais je pense que l'addiction, j'aime ce terme d'hémorragie narcissique, je pense que l'addiction, c'est ça. C'est en fait parce que malheureusement, au-delà de la maladie, etc., je pense que la personne addicte et fait de l'hémorragie narcissique en permanence, parce qu'en fait, tu ne fais qu'imposer ton addiction aux autres. C'est ça le véritable problème, c'est que nonobstant la souffrance de la personne et la maladie qu'elle endure, mais en fait, tout le monde souffre de l'addiction de l'autre. En fait, c'est puisqu'en fait, on a de cesse, malheureusement, que de la reporter, en fait, de la reporter sur l'autre. Moi, j'ai l'impression que, et je m'inclus dedans parce que je pense que j'ai toute personne addicte à quelque chose, quelle que soit la source de l'addiction, en fait, embarque absolument tout le monde là-dedans. Et ça, sachant qu'on peut être, à mon avis, addict à des boucles mentales de d'égocentrisme absolu ou de soumission à je ne sais qui ou à je ne sais quoi, au-delà même de la prise de substances. Et je pense que s'il y a quelque chose qui relie effectivement toutes les addictions, c'est le comportement de projection égotique total qui fait qu'à un moment donné tu aspires tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait effectivement c'est comme le vampirisme, c'est-à-dire que t'es d'abord vampirisé et ensuite tu vampirises toi-même par cette projection d'ego. Ça détruit absolument tout, sachant que le pire étant que quand t'es addict à une substance, de toute façon tu passes les trois quarts du temps à la chercher, ton truc. C'est mis en scène dans les films, bon, on peut regarder de ci de là sur la drogue. Bon, si on prend Requiem for a Dream, à un moment donné, ils vampirisent clairement sa mère, ils finissent par tuer tout le monde en fait dans cette histoire. Alors qu'à la base, la seule chose qu'ils auraient eu à traiter, c'est le vide intersidéral dans lequel ils sont. Non, mais ils sont dans un vide complet. Et je peux t'arrêter pas. Et, sauf que quand ce vide tu le vois, bon, c'est pas facile. Alors après, on peut pas, qu'est-ce qui fait qu'on tombe ou pas et qu'on cherche à le combler par la prise de substances ou autre, ça il y aura, bon, il y a différentes questions. D'ailleurs, je pense que le vide de l'américain ou autre dans lequel ils sont, à mon avis, a un impact direct, mais on a le même, on est consommateur de psychotropes des effets plus. Je pense qu'il est à la fois individuel et collectif, ce vide. Mais pour moi, c'est clairement ça. Et qui remonte peut-être, d'ailleurs, pour le coup, même si, à des effets psychologiques qui sont peut-être liés à des événements de la vie enfantine ou ce genre de choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est un truc qui est particulièrement structurant. Et dont il est plus difficile, en fait, à mon avis, de se sortir, c'est-à-dire de se sortir que de la substance elle-même. C'est-à-dire que, bien entendu, quand tu prends, tu peux être aux antidouleurs, par exemple, bon, tu as une dépendance physique qui s'installe, sachant que quand tu arrêtes d'en prendre, tu as la situation de manque absolu, mais la guérison, pour moi, qui n'en est pas une, mais l'atténuation de ce qui est pour moi un symptôme, passe par le traitement de la cause sous-jacente. Et je pense que l'addiction à la cause sous-jacente psychologique est bien plus importante que l'addiction à la substance elle-même. C'est l'hypothèse que je pose. Voilà. Bon,
moi je vous propose de réfléchir à nouveau en musique. Si Gilles la technique peut nous envoyer. $6.
Washington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out.
Voilà. Alors, si vous avez souffert dans votre enfance une affliction ineffable, si impuissant à faire face à pareil ennemi, vous avez été appelé à combattre le tigre tapis dans les séparations funèbres, en ce cas, à l'exemple de la Judée, assise en pleurs sous son palmier, mais assise la tête voilée, vous aussi voilez votre tête. Maintes années ont passé depuis lors, et peut-être n'étiez-vous en ce temps qu'un ignorant petit être, à peine âgé de 6 ans. Mais votre cœur était plus profond que le Danube, et tel votre amour, tel votre chagrin. Maintes années ont passé depuis que ces ténèbres sont descendues sur votre tête, maintes étés, maints hivers, pourtant, leurs ombres tournent toujours autour de vous par intervalles, comme les ondées d'avril sur cette radieuse journée de juin nuptial. C'est pourquoi, en ce suave matin de Pentecôte, vous voilez votre tête comme la Judée en mémoire de cette douleur transcendante et pour témoigner qu'en vérité, elle passait toute parole. Aussitôt, vous voyez l'apparition du Brocken voiler elle aussi sa tête, à l'exemple de la Judée assise sous son palmier, comme si elle aussi avait un cœur humain, mais comme si elle aussi, ayant souffert dans l'enfance une douleur ineffable, désirait, par ses muets symboles, exhaler un soupir vers le ciel en mémoire de cette douleur transcendante, et pour attester à nouveau, malgré la fuite des ans, qu'en vérité, elle passait toute parole. Dans les confessions d'un mangeur d'opium.
Forcément.
Mais je pense, et c'est d'ailleurs l'objet de toute ou partie du livre, parce que là, c'est une annexe, c'est la prolongation des confessions, dont on ne sait pas quelle est la réalité, parce que je n'arrive pas à savoir s'il rêve ou s'il veut ou s'il a vécu ce dont il parle la plupart du temps. Mais ce qu'il dit très concrètement, c'est qu'en fait, il y a une douleur primordiale. C'est ça qui, parce qu'il analyse pas, il exprime de manière très 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 romantique, mais c'est la douleur primordiale en fait. Et je pense que l'addiction, à quelle qu'elle soit, vient remplir et vient combler cette douleur. Et je pense que c'est malheureusement structurant, et cette douleur est extrêmement structurante chez énormément de monde, sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'en fait, là, je pense que la plupart des addictions passent en fait pour des manies ou des tocs ou je ne sais quoi. Et en fait, je pense qu'on est totalement addict à des micro-comportements. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de prendre de substances pour avoir une addiction, en fait. Et ce qui fait que je pense que la normalité est peut-être la non-addiction. Je ne sais pas. J'ai dit la normalité avec un A. Mais non, mais parce qu'en fait, on rejette toujours le comportement addictif comme étant effectivement asocial et autre. Mais en réalité, je pense qu'il y a des addictions qui s'ignorent. Voilà. Et parce que je pense que certaines douleurs, je pense que parfois certaines douleurs, notamment de l'enfance, sont productrices de ce type de comportement, nous prédisposent à nous faire vampiriser par telle ou telle chose. Alors ça peut être le jeu par les drogues et autres, parce que finalement c'est le comble du vide. Et en fait, tant qu'on n'a pas réussi à annuler ou en tout cas à encastrer cette espèce de vide dans un autre espace de notre pauvre psyché, eh ben, en réalité, on reste totalement addict, sans forcément que ce soit diagnostiqué comme tel. Et je pense qu'il y a des comportements addictifs dans la sphère sociale. Pour moi, dès qu'on vient vampiriser l'autre et qu'on projette quelque chose sur lui, je pense qu'on est déjà dans l'addiction, en fait, parce que le junkie fait ça. Il t'embarque complètement dans ton truc de manière totalement égocentrique. Voilà.
Il y avait aussi une question de Gilles à la technique, que je n'oublie pas.
Oui, tout à fait. Ma question était la suivante. Est-ce que le télétravail, donc les journées entières passées devant un écran tout seul chez soi, enfin plus ou moins tout seul chez soi, avec donc cet auto-confinement forcé de cette dernière période, avec en plus Uber Eats, Deliveroo qui vous permettent de vous restaurer sans avoir à bouger de votre chaise, ne peuvent pas engendrer une addiction accélérée de type Matrix?
Alors, on va laisser Doc Raymond répondre à ça et puis aussi intervenir suite à Igor.
Bien sûr que cet isolement... parfois librement consenti ou là imposé est une véritable cyberviolence. Comment dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à toutes ces questions. On ne peut être sous emprise qu'à partir du moment où on est isolé. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Je pense que l'une des manières effectivement de sortir de là, c'est justement le fait d'être ensemble, d'être nombreux. C'est l'union qui fait la force dans ces cas-là. La cyberviolence, qu'est-ce que c'est en fait? Dans certains aspects du télétravail, il y a effectivement des attaques narcissiques qui vident peu à peu les gens de leur défense psychologique. C'est-à-dire, comme l'évoquait Igor, toute la journée est rythmée avec des horaires précis, devant un écran à telle heure où nous sommes. Alors, l'écran, évidemment, c'est facile de dire que ça fait écran à nos capacités habituelles d'empathie, de compréhension, de que sais-je. Là encore, sur ce logiciel, nous voyons nos visages. Mais lorsqu'il s'agit aussi par téléphone de téléconférence, c'est encore pire de pouvoir effectivement comprendre le mood, l'ambiance autour duquel c'est fondamental chez les êtres humains que d'avoir le contexte avant de parler à quelqu'un. On a déjà traité en quelques centaines de millisecondes un ensemble de réactions avant même que ce soit venu à la conscience de notre esprit. Donc ça, c'est un premier aspect. À partir du moment où effectivement les gens sont devenus un peu des enveloppes vides qui vont effectivement accomplir ce travail, il devient très difficile de briser l'emprise. C'est ce qu'en psychiatrie on appelle la dissociation, le fameux auteur étant Pierre Janet qui s'occupait effectivement de tout ça. On devient autre, on devient effectivement asservi effectivement à la machine qui va rythmer la journée. Alors bien sûr que l'autre aspect, c'est je vais vous faire rigoler, vous savez quand même que le chasseur de vampires est un psychiatre qui s'appelle le professeur Van Helsing.
Exact.
Voilà. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a découvert? Bien sûr que les vampires des GAFA ont horreur de la lumière. Il faut comprendre comment fonctionnent les GAFA. C'est pour peut-être éviter de se laisser piéger dans cette bulle cognitive. Vous, dans votre génération, vous savez encore bien mieux que moi à quel point les algorithmes nous enferment, c'est là où vous pourrez parler volontiers de Matrix, dans nos propres croyances qui peuvent devenir de telles certitudes qu'elles peuvent devenir paranoïaques. Ouais, c'est-à-dire qu'on devient soi-même son propre projet unique sans aucune interaction. Donc, il est très difficile à ce moment-là de faire la lumière. Bram Stoker, lui, pense que en fait, c'est l'union qui fera la force et que, en gros, Dracula sera battu quand on aura vraiment décrypté sa stratégie et que nous nous serons unis. Camarades. le deuxième aspect, je crois aussi, pour en sortir, puisque je crois que c'est important aussi d'être sur des notes d'espoir de cette addiction, je crois que pour abattre ce vampirisme numérique, l'essentiel, on ne peut l'abattre que par le symbolique. C'est le pieu de Saint-Georges ou de Saint-Michel. C'est la croix, c'est ce qui relie les gens entre eux. Le symbolique va s'opposer à l'imaginaire, ou en tout cas à l'imaginaire manipulé, pour vaincre le vampire et son système. Les méfaits d'Internet, c'est justement un système. Je vais être un peu difficile, mais j'incarne ce rôle aujourd'hui. C'est un système agresseur, sacrificiel, où le faible doit être dominé par le fort. Un système dans lequel tout le monde adhère finalement, qu'on va appeler sexisme, racisme, homophobie, néolibéralisme, élitisme, etc. Bref, tous ces totalitarismes, qu'ils soient d'ailleurs familiaux, sociaux, politiques, etc., se trouvent incarnés par le vecteur lui-même et qui, effectivement, va entraîner ces phénomènes de dissociation. Je suis l'autre par cette addiction qui me permet l'oubli moi-même de ce que je suis, tout seul, isolé, livré à domicile, dans des situations où effectivement on se coupe complètement du reste.
Mais à mon avis, il y a un parallèle extrêmement fort à faire, parce que quand tu es addict à des drogues très dures, surtout si elles sont légales, tu as exactement le même comportement.
Tout à fait.
Le dealer ou le pharmacien vient te livrer à domicile, tu viens chercher ta propre dose, c'est dans un enfermement complet, et en plus, tu t'auto justifies totalement, en fait, puisque de toute façon c'est un système totalement auto-référentiel. Et effectivement, je pense que l'algorithme vient clairement renforcer ça. Mais par ailleurs, et je trouve que le parallèle avec l'addiction à une substance quelle qu'elle soit, effectivement, me semble particulièrement justifié. J'ai vu Ingrid. Hop là.
Et moi, je vais, pour arriver au terme de cette émission, je voulais vous proposer une dernière lecture qui est une autre forme d'addiction. On a presque passé une heure ensemble. Et qui est tirée de Belle du Seigneur de Cohen. Vous devez vous douter de quel genre d'addiction je parle. Possédée et sous lui, elle l'entourait et le serrait fort de ses bras et de ses cuisses repliées qui le sanglaient aux reins. Il avait peur d'être ainsi maintenu et harnaché, peur de cet inconnu sous lui en grand égarement magique. Absente d'elle-même, prophétesse en mâle sacré d'orgasme, le regardant soudain avec un religieux sourire de folle, qui le voulait tout, dangereusement voulait tout de lui, voulait sa force et son nourrir, l'aspirait aimant vampire, voulait le garder dans le monde obscur. Apaisé, revenu au langage, mais toujours le gardant en elle, et en elle le serrant, elle parla tout bas, aimer, toujours ensemble, toujours nous aimer, c'est ce que je veux, dit-elle, avec son sourire de folle, et il frissonna, captif d'elle qui le serrait. Là, on parle plus d'addiction, à une personne.
Ouais, mais je pense qu'ils sont tous les deux addicts.
Oui.
Parce qu'en fait, ils sont tous les deux vampires. Bah, ils sont tous les deux vampires et vampirisés.
Lui a une emprise sur elle et elle est complètement à sa merci.
Oui, mais elle adore ça. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut être addict au fait d'être complètement vampirisé, si tu veux.
Et justement, moi, j'aurais voulu que Doc Raymond nous parle de ce type d'addiction.
Justement.
Les love addicts, oui, c'est là aussi une question très très vaste. Qu'y a-t-il derrière le mot amour? Je crois que c'est difficile là, puisque tu évoquais, Ingrid, la fin de cette émission. Alors, ça pourrait être le sujet d'une nouvelle émission, évidemment. Celle de la dépendance affective, émotionnelle et de ce que nous mettons derrière le mot amour et être aimé. Donc, c'est vrai que dans le système que j'évoquais précédemment, ça peut être tout à fait inclus dans un système sacrificiel en quelque sorte. Et effectivement, finalement, je reprendrai ce que j'ai évoqué tout à l'heure en démarrant, c'est l'étymologie d'addictérer, c'est effectivement de donner littéralement son corps en esclavage pour payer une dette, voilà, une dette d'amour. Et hop. Je suis pas parti pour 2 heures.
Si. Non mais attends, mais ça fera l'objet, ça doit faire l'objet d'une émission, parce que je pense que c'est particulièrement fort. C'est justement là, non pas où je voulais en venir, mais c'est ce qui m'est venu pendant l'émission, c'est que je pense qu'au-delà de l'amour, je pense qu'on est addict à la souffrance en fait. Très fortement. Et je vais me poser une hypothèse. Et d'ailleurs, peut-être que la souffrance pourrait être l'objet de la prochaine émission. Je pose ça comme ça. Je pense qu'en fait, c'est la drogue la plus forte du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on aime souffrir. Parce qu'en réalité, tu as des gens qui n'ont de cesse de se poser comme étant des sortes de martyrs de je ne sais quoi et qui, en fait, probablement ne vivent qu'à travers ça, si tu veux. Et quand tu ne souffres pas, c'est-à-dire que ils sont capables même d'aller reprocher aux autres de ne potentiellement pas assez souffrir parce que... Et d'ailleurs, je me demande si cette histoire de confinement et autres n'a pas démultiplié par 25 000 ce type de comportement, parce qu'en réalité il met en exergue cette souffrance acceptable pour le coup, parce qu'elle est cachée par une forme de solidarité ou d'intérêt général, alors qu'en fait elle est probablement profondément ancrée dans le comportement des gens. Et je pense que ça vient même relier ces histoires sur Internet, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend très, 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 très fortement, de manière complètement, parfois, abjecte? Je sais pas, tu prends les cas de body shaming ou ce genre de choses. Enfin, à quel moment est-ce qu'on va s'en prendre à des gens qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs, qui nous ont strictement rien fait, si ce n'est parce qu'on ne trouve pas qu'ils souffrent
pas assez? Tu penses qu'on peut être addict à la souffrance?
Enfin, je pense qu'on peut être très fort, et pas physique. Hein. Ce n'est pas une question de
sexualité émotionnelle, ou autre. Hein. Émotionnelle.
Très fortement, très très fortement. Okay. Parce que sinon, c'est une hypothèse de travail, c'est que sinon on serait tous capables d'aller guérir nos névroses finalement. Alors qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on fuit cette guérison? Je pose la question. Je n'ai pas assez de réponse, mais je suis persuadé que beaucoup de gens sont en fait totalement addicts à ça, parce que ça vient structurer leur identité et ça fait d'eux des vampires. Voilà.
Ben, très clairement, la souffrance rappelle Dracula et le soufre. Hein. Excusez-moi, là aussi, mais c'est tellement ça.
Ah oui.
Là, bien sûr qu'il y a dans cette part que ce soit d'ailleurs des substances ou que ce soit effectivement des comportements. Il y a une recherche au départ d'un bien-être dans la souffrance. Mmh. La substance opioïde la plus consommée aux États-Unis actuellement, le carfentanil, c'est une molécule qui est 4000 fois plus puissante que l'héroïne. 4000 fois plus puissante que l'héroïne. Ouais, donc, c'est pour vous dire, complètement déconnecté du contexte sociologique, prohibition, etc., etc., puisque ouais, sur ordonnance de la Big Pharma, etc., je devrais peut-être pas dire ça d'ailleurs dans une émission qui pourrait être écoutée.
Non, bon, mais c'est bah, parfait, docteur Raymond Roy. Enfin, je veux dire, voilà, les effets sont dramatiques. Hein.
Ah bah c'est tout à fait clair.
Malheureusement. Hein.
Et effectivement, c'est dans cette dimension qu'on retrouve. J'avais été très très frappé à l'époque du livre, vous savez, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Mmh. De ce livre, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'était vraiment, enfin, à l'époque, ça avait été publié, dans le contexte évidemment de Berlin, et je salue la musique de Lou Reed tout à l'heure, c'était évidemment un très 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 bon choix. De se retrouver effectivement esclave d'une situation avec effectivement la fascination de la souffrance, avec le fait que, ben, comme je disais, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis obsédé par cette idée, de Dracula, en gros, je vous rappelle que les vampires n'ont pas d'image dans les miroirs.
Exactement.
C'est comme ça qu'on les repère. Eh bien, effectivement, là, quelque part, où est, dans l'écran que nous traversons, où est effectivement la souffrance dans le fait de ne plus avoir notre propre image et d'être remplaçable, puisque nous tenons par cette espèce de cordon ombilical d'Internet qui fait que si nous sommes débranchés, nous n'existerions plus. Je crois que le plus grand vide et la plus grande souffrance, effectivement, se trouve là. Mmh. Et le parallèle avec les opiacés en est évidemment un usage détourné qu'on retrouve là dans le numérique.
Exactement. Mais je pense que quand tu es en phase de très… Excuse-moi, Ingrid.
Gilles avait aussi une question après.
Non, mais en fait, j'aime bien cette idée du vampire et du miroir, parce qu'en fait, du coup, je pense que quand tu souffres d'une très très forte addiction, tu vampirises tellement, tu oublies. Il y a un sentiment de toute puissance de l'addiction à la souffrance. Et je pense que tu en deviens, tu oublies que t'as l'image de ton ennemi en toi, en fait. Puisque t'es tellement auto-centré et dans une telle projection égotique, qu'à un moment donné, je pense que tu oublies toute humilité. C'est ça le vampirisme, en fait. Puisque quand tu mords l'autre, tu lui injectes ton propre délire.
Gilles,
il faudra y réfléchir. Mais ça pourrait faire l'objet d'une émission des éclectiques, le vampirisme.
Ouais. Alors,
il va falloir choisir.
On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Doc Raymond qui parlait tout à l'heure des réunions de type alcoolique anonyme.
Oui.
Pour revenir un peu sur l'aspect franc-maçonnerie qui me tient à cœur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, nos tenues d'obligation, puisqu'on appelle ça des tenues d'obligation, qui se déroulent à peu près deux fois par mois de façon tout à fait régulière, ne sont-elles pas quelque part en fait des réunions de ce genre, mais multi-addiction et préventive en fait.
Je vois Doc qui rigole. Qu'est-ce que tu en penses, Doc?
Waouh, que nos auditeurs sont très pertinents et comment dire?
Bizarre,
les alcooliques anonymes, ce sont des groupes de soutien par et pour les personnes ayant des problèmes donc avec l'alcool, qui proposent un système de parrainage. Donc il y a effectivement ce rappel là. Et avec 12 étapes par lesquelles doivent passer la personne. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'étapes à passer. On pourrait parler des marches aussi que nous avons effectivement à passer. Le texte fondateur, je crois, remonte à l'avant-guerre 1939 ou quelque chose comme ça. Et l'accompagnement proposé repose beaucoup sur la spiritualité, mais surtout la religion. Mmh. C'est pour ça que la question est aussi tout à fait intéressante. Il est demandé aux participants de, entre guillemets, croire en quelque chose. Les études en fait sont mitigées quant aux preuves d'efficacité de cet accompagnement pour répondre en partie à la question sur la franc-maçonnerie en tant que soutien. Les recommandations actuelles proposent plutôt un accompagnement évidemment en addictologie. Maintenant, le phénomène en France est effectivement prend beaucoup moins parce qu'effectivement il y a des réunions d'alcooliques anonymes, mais en France, manifestement, le côté très codifié et religieux, nombre de patients ne s'y reconnaissent pas, en fait. Voilà.
Ma question, c'était surtout, est-ce que nos tenues d'obligation ne seraient-elles pas, en quelque sorte, des séances de ce type, mais multi-addiction, sans présager lesquelles, et préventive?
Oui, bon, oui, préventive, que... très... Oui, mais Gilles, dans ce cas-là, très, 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 très préventif, parce qu'on ne te demande pas. Mais non, mais sans en dévoiler le contenu, je pense qu'on peut, on peut d'ores et déjà dire qu'il n'est pas, de, il n'est pas demandé d'admettre la moindre autre chose que d'être soi. Ce que fait, c'est ce qui est déjà un très grand pas, en fait. Mais parce que le principe de toutes des AA ou autres, c'est que tu commences le truc par je m'appelle Bob et je suis addict à ceci et cela. Voilà. Donc là c'est la c'est le principe même, ce qui est pas forcément demandé en poser ou que, comment qui est posé comme un préalable à l'élaboration de la de la réunion. Non, après ce que je trouve très intéressant, mais effectivement, je pense que ça fonctionne pas très bien en France, et je pense que non seulement il y a la religion, mais parce qu'on a par ailleurs une relation aux soins qui est très, enfin une relation aux sanitaires de manière générale qui est extrêmement institutionnalisée, sans chercher à partir dans les Yankelevitch et autres joyeusetés de ce genre, voilà. Et je, mais on a institutionnalisé de manière très claire la lutte contre l'addiction, ce qui fait que peut-être, mais alors là je m'avance un tout petit peu, les AA sont plus issus fondamentalement de la société civile et te soignent par le lien social, parce qu'en fait tu es responsable devant les autres, tu es responsable envers ton parrain, au-delà de le caractère très 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 religieux et en parallèle de toute médication. C'est ça que je trouve intéressant, parce que justement, le junkie, il est dans la domination totale des autres. Tu bouffes tout, tu es prêt à tout bouffer, c'est irrémédiable, sinon tu n'es pas le vampire.
Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des addictions, vous, autour de cette table?
Oui. Non, pour ma part, il m'est arrivé, oui, de manière extrêmement claire. Il n'y a pas une seule, depuis l'âge de 6, ouais, il n'y a pas eu une seule année sans prise de quoi que ce soit. Je sais d'où ça vient, voilà. Il y a eu, non, mais mon corps m'a fait tellement souffrir pour rien qu'à un moment donné, il a fallu prendre des choses, ouais, de manière extrêmement claire, très forte. Et avec des dérapages non contrôlés, ouais. Mais ça m'a amené très loin. J'ai fini plusieurs fois à l'hôpital.
Et vous, ouais. Gilles et Doc Raymond, sauf si vous considérez que c'est indiscret comme question.
Moi, j'en ai eu. Pas aussi, j'en ai eu, mais je m'en suis à peu près sorti. Je pense que j'ai peut-être une petite addiction à la radio. Actuellement, avec parfois des soirées de sevrage, et peut-être à la franc-maçonnerie des fois, mais je crois que cette période de confinement justement fait du bien, parce qu'elle permet d'en casser certaines.
De s'en libérer. Ouais.
Faire reprendre du sens.
Il y avait une dernière question que proposait Gilles. C'était finalement, l'addiction à la vie n'est-elle pas la mère de toutes les addictions?
Ah.
Et on va pouvoir conclure après cette question, ouais. Je crois.
Je vais renverser le truc. Je pense que malheureusement, c'est pas à la vie, c'est à la mort que donc on est addict. C'est ça le vrai, probablement le sujet.
On est addict à échapper à la mort, peut-être plutôt.
Peut-être.
C'est pas
à mourir, mais si on vit, si on vit. Disons qu'en fait, si on, ouais, je sais pas.
Doc.
C'est une pirouette, mais il y a peut-être.
En termes d'addiction, alors juste pour répondre précédemment, excusez-moi, mais c'est vrai que mais ce sera un joke. Les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, je vois mal les maçons anonymes. Ou alors vraiment, voilà. Ça, vous voyez ce que je veux dire. ça risque de mal tourner cette affaire-là. Bon, excusez-moi, c'est
parce que tout le monde ne s'appelle pas Bob, en fait.
Oui.
Alors, non, pour moi, si j'avais… Alors, bien sûr que dans une définition large, hein, tout une société comme la nôtre est très addictogène. Pour ma part, au-delà des confessions que je ne mènerai pas ici, je dirais que j'ai trois addictions. La première, c'est l'addiction à l'autre, dans la curiosité, qui est une autre manière de parler de l'addiction à la vie, hein, évidemment. J'avoue que je serais incapable d'exercer notamment mon métier depuis si longtemps si je n'avais pas cette addiction effectivement à la rencontre et qu'on retrouve effectivement dans nos environnements, dans nos loges.
Il y a de beaux spécimens, effectivement.
Voilà, tout à fait. C'est cette pluralité qui est passionnante. deuxième addiction au détail. On dit souvent que le diable est dans le détail, mais je crois que la vie aussi est dans le détail. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça rebondit un peu sur la question de la mort là, non, je crois que la vie et la mort, bien sûr, sont tout à fait liées, mais il importe de vivre, non pas comme si on devait mourir tout de suite, memento mori, mais de vivre comme si on devait mourir demain. Et voilà, et tout est là dans cette petite nuance du temps. Et puis, troisième addiction, une addiction à l'éveil. J'ai l'impression d'être tout le temps endormi, ou en tout cas en pilote, en mode automatique, un peu addict effectivement aux habitudes, au consensuel, à beaucoup d'éléments. Et effectivement, je guette un peu ce qui peut être un moment d'éveil, de parole vraie, de vérité, qui va mettre effectivement un petit peu de lumière. Et comme vous savez, Dracula n'aime pas la lumière, donc voilà, ce sera ma troisième addiction avouée sur les ondes. Pour le reste, nous verrons une autre fois.
Et donc, la vie est-elle mère de toutes les addictions pour toi?
Mère est un terme un peu trop large pour parler de toutes les addictions, tant il y a, comme l'évoquait Igor, tant de souffrances en même temps. Et la vie, je ne pourrais que partir là après sur le johannisme et sur au commencement était la vie.
Eh bien, voilà. Moi, ce que bien je sûr propose, c'est que la prochaine émission, ce soit le sujet.
La vie.
La vie. Qu'est-ce que la vie pour qu'est-ce que la vie pour vous?
C'est un bon avis. C'est un bon avis.
Au féminin.
Ah oui.
Ah ouais.
Et je t'invite, Doc Raymond, à y réfléchir puisque tu.
Viens, Doc.
Tu es notre invité perpétuel. Voilà.
C'est ça.
Merci. Merci en tout cas. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer parce que c'est finalement formidable, même si tout à l'heure j'avais tendance à taper un peu sur le numérique, mais c'est vrai que. Si j'ai bien compris, là, physiquement, nous aurions beaucoup de mal à nous réunir dans un lieu commun dans la vie classique, alors que finalement, nous pouvons ici aussi discourir. Donc, heureusement, il y a ces bulles numériques aussi qui ne nous enferment pas, mais tout simplement parce que nous sommes ensemble, comme je disais tout à l'heure, et c'est l'union qui fait la force, effectivement, et pas l'isolement qui, lui, nous emmène vers des territoires et des ténèbres. Comme je disais tout à l'heure, on entre librement dans le château, hein, on entre de son plein gré.
Donc, quitter l'addiction, c'est chercher la lumière.
C'est chercher la lumière sur une fausse piste, oui. Mais il en faut. Ce sont des pas-côtés. Bien sûr que dans toute addiction, il y a un moment agréable. Le problème, c'est le manque après. Qui n'a pas testé telle ou telle substance va avoir quelques moments d'élation, quelques moments bonheur est peut-être un terme un peu excessif, mais enfin certaines substances très fortes, notamment les opioïdes, procurent ce genre de choses.
Moi je disais quitter ces addictions.
Quitter ces addictions. Je ne sais pas si on peut quitter les addictions parce que je suis quand même très dans un référentiel médical et une addiction, ça reste une maladie chronique.
Donc, on ne s'en libère jamais.
Je pense que la métaphore du vampire est plutôt pas mal. On est vampirisé par l'addiction, que ce soit une substance, un être, une souffrance, etc. Et je pense que quand on met la lumière dessus, ça fait particulièrement mal. Mais après, est-ce qu'on peut… voilà. Et la lumière le brûle, mais en fait, elle ne guérit pas forcément. Et rien n'indique que le vampire ne soit pas en nous, d'ailleurs.
Bon, sur ces paroles, j'invite nos auditeurs
le pieu de Van Helsing.
C'est ça. avec le maillet derrière. C'est-à-dire que justement, maintenant, tu peux pas. Si le pieu n'est pas actif tout seul, il faut de la force pour le vanier.
Un petit mot de la fin. On va laisser l'honneur à Doc Raymond.
Écoutez, je crois qu'on a évoqué plein de pistes aujourd'hui. Merci encore pour ces lectures. Je vous avoue que je découvre vos textes et c'est vraiment un plaisir parce qu'ils sont effectivement très très bien choisis. Et là, non, sans chercher de réelle synthèse que j'ai déjà en partie faite juste avant. Non, au plaisir de vous retrouver. Les sujets sont vastes et véritablement ce statut d'invité perpétuel, je vous en remercie, me fait très plaisir. Voilà.
Merci à toi.
Ben, merci à toi. Bon, moi, je remercie notre Doc Raymond et Igor pour leur recherche. Ils ont su chercher au fond d'eux pour discuter sur ce thème plutôt intéressant.
Voilà. Merci à toi, Ingrid, aussi. Et merci à Gilles.
Et merci à Gilles.
Voilà.
Merci, Gilles.
Merci à vous.
Doc. Au revoir.
Moi, je voulais juste ajouter que, en fait, peut-être cette diction d'aujourd'hui était bonne pour combattre l'addiction.
Ah.
Peut-être. C'est beau.
Ouais.
Mais d'ailleurs, si nous devions parler en langage... En langage de volatile, si tu sépares addiction en deux mots, c'est l'incapacité de l'addiction. C'est le A qui t'enlève, c'est le A qui te privatif de diction.
Mais ceci est une autre histoire.
On a encore
ceci combien de temps? À très bientôt.
Et de musique.
Et encore merci.
Merci à vous. Au revoir.